Vous écoutez, on lit pour vous.
Les Canadiens prêts à souffrir pour s'affranchir des États-Unis. Un texte de Philippe J. Fournier, paru le 6 du 11e mois 2025 dans l'Actualité. Un sondage à Bacchus indique que les Canadiens seraient prêts au sacrifice économique afin que le Canada se défasse de sa dépendance commerciale à l'égard des États-Unis. Sans égard au premier budget fédéral de l'ère de Mark Carney, tous les sondages qui se sont penchés sur le niveau de confiance des Canadiens par rapport à leur économie indiquent qu'ils sont largement convaincus que la situation empirera avant de s'améliorer. Les tarifs douaniers imposés aux importations canadiennes par les États-Unis et l'imprévisibilité de l'humeur de Donald Trump y sont pour beaucoup, il va sans dire. Cette incertitude, les électeurs en ont soupé. Si on se fie au plus récent sondage fédéral de la maison Abacus Data, conduit juste avant le dépôt du budget. Les Canadiens veulent que soit découpée l'économie de leur pays et celle des États-Unis, qui sont très imbriqués depuis les premiers traités de libre-échange il y a une quarantaine d'années. Dans toutes les régions, et peu importe les allégeances politiques, les répondants réclament que le Canada trouve de nouveaux partenaires économiques afin de réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis, et ce, même au prix d'un ralentissement de la croissance économique au pays. Quant à savoir s'il faudrait travailler sur notre relation avec le partenaire américain ou aller voir ailleurs, deux fois plus de répondants estiment que le Canada devrait se trouver de nouveaux amis économiques plutôt que de tâcher de renforcer la relation canado-américaine. Une majorité claire de répondants, 63 % croient que le premier ministre devrait tisser de nouvelles relations commerciales. Seulement 27 % pensent plutôt que Mark Carney devrait chercher à renforcer les liens économiques avec les États-Unis. Dans un rare moment de consensus national, Abacus observe des majorités relativement identiques dans les différentes régions du pays. Au Québec, les proportions sont proches de la moyenne canadienne. Près des deux tiers des Québécois, 64 % souhaitent que le Canada diversifie ses marchés, alors que 24 % estiment qu'il faudrait plutôt privilégier les relations canado-américaines. On pourrait croire que, sur cette question délicate, les opinions sont alignées selon les clans partisans, comme sur tant d'autres enjeux. Or, le contraste entre les électorats des partis fédéraux est loin de révéler des divisions profondes. Des majorités d'électeurs de chacun des principaux partis fédéraux pensent que le Canada devrait trouver de nouveaux marchés pour réduire sa dépendance aux géants américains. 73 % des électeurs libéraux et 55 % des électeurs conservateurs partagent cet avis. Des proportions similaires d'électeurs bloquistes et néo-démocrates, 69 % et 72 % respectivement, estime que le premier ministre devrait trouver de nouveaux partenariats économiques. Encore une fois, cette position est largement consensuelle partout au Canada. Reste qu'emprunter cette voie ne se fera pas sans douleur. Prêt à souffrir. Les tensions entre le Canada et les États-Unis sur le plan commercial ont des répercussions importantes sur l'économie et l'emploi des deux côtés de la frontière. Les annonces de renvois massifs dans le secteur de l'automobile, des camions et de la foresterie, entre autres, se sont accentuées dans ces derniers mois, notamment en Ontario et au Québec. Lors d'un discours pré-budgétaire à l'Université d'Ottawa le 23 octobre, Mark Carney avait affirmé « Je serai toujours franc au sujet des défis auxquels nous devons faire face et des choix que nous devons faire ». Et pour être clair, nous ne transformerons pas notre économie facilement, ni en quelques mois. Cela demandera des sacrifices et prendra du temps. Le mot « sacrifice » a retenu l'attention à la fois des médias et de l'opposition conservatrice, et avec raison, car il est rarement utilisé par des leaders politiques. Néanmoins, ces nouvelles données d'Abacus Data semblent indiquer que les Canadiens sont prêts à braver la tempête, et les Québécois ne font pas exception. Habacuc a testé la question et les résultats sont sans équivoque. D'accord ou en désaccord? Je suis prêt à accepter une croissance économique plus lente au Canada si cela signifie une plus grande indépendance économique envers les États-Unis. Au total, 31% des répondants sont entièrement d'accord, auxquels s'ajoutent 40% qui se disent plutôt d'accord. Moins de 20% des répondants sont en désaccord avec cette affirmation. On note une fois de plus un rare consensus. Des majorités d'électeurs de chaque région du pays se disent prêts à accepter un ralentissement économique pour réduire la dépendance au marché américain. Les proportions d'électeurs favorables à cette idée ne varient que de quelques points par rapport à la moyenne canadienne. C'est d'ailleurs au Québec que cette proportion est le plus élevée. 76% des Québécois se disent prêts à une décroissance temporaire pour réduire la dépendance à l'égard des États-Unis. Seulement 15% des Québécois choisiraient de ne rien risquer. Cette minorité trouve davantage écho auprès de l'électorat du PCC, seule allégeance politique où une bonne part de répondants sont plutôt frileux face aux risques, 32% d'entre eux se disant en désaccord avec l'affirmation. Chez les autres électeurs, les tendances sont similaires. Plus ou moins 8 sur 10 se disent prêts au sacrifice pour réduire la dépendance du Canada à l'égard des États-Unis. Avec l'entente de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ACEUM, qui vient à échéance l'an prochain, et des négociations qui ne semblent aller nulle part, il ressort du sondage qu'une claire majorité d'électeurs appuie la stratégie apparente du gouvernement Carney. Conclure de nouvelles alliances économiques partout sur le globe, même avec des pays où les relations diplomatiques ont été tendues par le passé, comme la Chine et l'Inde. Reste à voir si l'administration américaine ajustera le tir en vue des élections de mi-mandat prévues pour novembre 2026. C'est donc à suivre. C'était « Les Canadiens prêts à souffrir pour s'affranchir des États-Unis ».
Traitement de l'asthme et des allergies, un médicament lié à des suicides mais largement prescrit. Un dossier d'Alice Girard-Bossé, paru le 31 mars 2024 dans la presse. Singulaire, un médicament traitant l'asthme et les allergies est lié depuis des années à des suicides. Au point où Santé Canada émet désormais une mise en garde devant l'utilisation de ce médicament. Pourtant, de plus en plus de patients assurés par la Régie de l'assurance maladie du Québec en consomment. Une tentative de suicide à 6 ans. Le médicament singulaire fait désormais l'objet de mises en garde et précautions importantes par Santé Canada, le type d'avertissement le plus fort qui existe au pays. De nombreux patients se voient tout de même prescrire ce médicament, souvent lorsque les autres traitements contre l'asthme échouent, même au Québec. La docteure Francine Ducharme, pédiatre et épidémiologiste clinique au CHU Sainte-Justine, rencontre régulièrement des patients qui subissent des effets secondaires sévères du médicament. J'en ai au moins toutes les deux semaines. Agitation, agressivité, dépression, troubles du sommeil, pensées et comportements suicidaires. La docteure Ducharme les a tous vus. L'une de ses patientes a commencé à prendre le médicament singulaire à 5 ans. Elle a fait une tentative de suicide à 6 ans. À 6 ans, lance la docteure Ducharme. Puis elle a fait une seconde tentative de suicide à 11 ans, alors qu'elle prenait toujours le médicament. Lorsque la médecin a rencontré la jeune fille pour la première fois à l'âge de 12 ans, elle s'est empressée de lui faire arrêter le traitement. Le singulaire, de son nom générique Montelukast, est un médicament approuvé pour le traitement de l'asthme chez les adultes et les enfants et pour aider à contrôler les symptômes nasaux des allergies saisonnières. Lors de sa mise en marché en 1997 au Canada, le fabricant de l'époque, Merck, notait peu d'effets secondaires dans les effets cliniques. Il y avait un petit peu de nausée, un petit peu de mal au ventre, un petit peu de mal de tête, mais pas de grosses choses. Il n'y avait pas d'effet secondaire neuropsychiatrique, se remémore la docteure Francine Ducharme. Il faudra attendre en 2008 pour que de nouveaux signalements poussent Santé Canada et la FDA à mettre à jour la liste d'effets secondaires du médicament, afin d'y inclure la dépression, les pensées et les comportements suicidaires et l'anxiété. Les effets secondaires peuvent se présenter différemment chez les adultes. Les effets qu'on voit, ce sont souvent des cauchemars. J'ai eu quelques cas où les personnes avaient des problèmes anxieux. Des gens disaient aussi qu'ils avaient une moins bonne humeur, dit la docteure Christelle Godbout, pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, IUCPQ, spécialisée en asthme chez les adultes. Elle voit des patients avec des effets secondaires du médicament quelques fois par année. Un avertissement inexact. Jusqu'à présent, Santé Canada a reçu plus de 4000 déclarations d'effets indésirables en lien avec Singulair. De ceux-ci, 3116 rapports étaient sérieux, indique le porte-parole de l'agence Mark Johnson. Les professionnels de la santé ont d'ailleurs été prévenus par Santé Canada du risque d'événements neuropsychiatriques graves associés au Montelukast au moyen d'une nouvelle mention de mise en garde des précautions importantes en août 2020. Cette mention constitue le type d'avertissement le plus fort pour un produit au Canada. Les bienfaits de Singulair chez certains patients pourraient ne pas être supérieurs au risque encouru, surtout lorsque les symptômes de la maladie sont légers et qu'ils peuvent être bien maîtrisés avec d'autres traitements, peut-on lire dans l'avertissement de Santé Canada. La docteure Ducharme estime toutefois que l'avertissement de Santé Canada ne révèle pas l'ampleur du problème. Dans la monographie du produit datant de 2021, on peut lire que les effets indésirables ont été signalés très rarement, soit dans moins de 1 cas sur 10 000. « C'est inexact de dire que ça arrive moins de 1 sur 10 000 », s'exclame la docteure Ducharme. Ceci suggère que les patients, les pharmaciens et les médecins devraient apporter de façon plus systématique tout effet secondaire. Santé Canada est plutôt d'avis que les avertissements inclus dans la monographie actuelle de produits sont à jour et communiquent les risques en question. Le signalement d'effets indésirables est pris au sérieux, a pour sa part déclaré Dominique Quirion-Dorgagnon, fabricant de Singulair depuis 2021. Comme pour tous nos médicaments, nous surveillons continuellement l'innocuité de Singulair. Quelques mois avant Santé Canada, la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis, avait également demandé qu'une mise en garde encadrée, ou Black Box Warning en anglais, soit ajoutée aux informations de prescription du Montelukast pour décrire ses effets secondaires graves sur la santé mentale. La FDA a annoncé du même coup avoir identifié 82 cas de suicide associés aux médicaments, dont 19 chez des enfants. Sachez que certains patients ont rapporté des événements neuropsychiatriques après l'arrêt du Montelukast, précise l'agence sur son site internet. Lorsque la docteure Christelle Godbout a terminé son cours de pneumologie en 2014, les effets secondaires du médicament Singulair étaient peu connus. Je prescrivais le Singulair aux patients et je ne leur parlais pas des effets secondaires parce que ce n'était pas très bien publicisé. Elle a été beaucoup plus sensibilisée aux effets neuropsychiatriques depuis que la FDA a émis son Black Box Warning en 2020. Elle estime toutefois que l'avertissement de Santé Canada passe, encore à ce jour, inaperçu par rapport à celui de nos voisins du Sud. Les mises en garde de Santé Canada, je dirais que c'est moins bien publicisé. Le Black Box, ça fait peur. Au moins 38 000 utilisateurs au Québec. Malgré les sérieux avertissements de l'agence fédérale, le médicament est encore prescrit. En 2023, plus de 38 000 personnes ont eu recours aux médicaments Singulair, en augmentation constante dans les 10 dernières années, selon les données de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, obtenues par la presse. Ces données ne concernent que les personnes assurées par le régime public. Ce n'est jamais un premier choix en asthme, dit la docteure Christelle Godbout. On va se servir du Singulair chez l'adulte en ajout aux pompes de corticostéroïdes quand elles ne sont pas suffisantes pour contrôler l'asthme. Singulair a l'avantage d'être un médicament en comprimé, dit la spécialiste. Les patients oublient beaucoup les pompes, alors qu'un médicament par la bouche, ils le prennent assez régulièrement. Singulair peut également permettre d'éviter d'augmenter les doses de cortisone dans les pompes qui peuvent avoir des effets indésirables à long terme. Pour avoir accès aux thérapies avancées contre l'asthme, soit des médicaments en injection remboursés par la RAMQ, le gouvernement demande d'ailleurs à ce qu'il y ait eu un essai de Singulair ou d'un autre médicament avant de pouvoir accéder à ces thérapies avancées, dit-elle. J'avais l'impression que mon fils avait pris de la drogue. Bien que la consommation du médicament par les mineurs ait diminué dans les 10 dernières années, plus de 2000 enfants de moins de 10 ans sont toujours traités avec ce médicament. Le Singulair est souvent prescrit lorsque les autres traitements contre l'asthme se révèlent inefficaces, explique le docteur Larry Lanz, directeur de la division de médecine respiratoire à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est le cas du fils de Mylène, qui était âgé d'à peine un an, lorsqu'il a commencé à prendre du Singulair l'année dernière. Le bambin avait essayé deux autres médicaments auparavant sans succès. Les effets bénéfiques du Singulair ont été instantanés. Ça a été magique. L'asthme a complètement disparu. Ce n'était jamais arrivé avant que son asthme soit contrôlé, raconte Mylène. La famille avait été prévenue par l'équipe médicale de suivre attentivement les éventuels effets neurologiques du médicament. Mais la pharmacienne m'avait dit que c'était une vieille molécule et que le médicament existait depuis longtemps et qu'on n'avait pas à s'inquiéter. Dans les jours qui ont suivi, elle a constaté que son fils était devenu hyperactif. On n'était même pas capable de lui lire un livre, il fallait toujours qu'on soit dans le mouvement. Elle en a discuté lors du suivi de son fils à l'hôpital. La famille et l'équipe médicale en ont conclu que les bénéfices étaient plus grands que les risques. Or, les semaines passées, son agitation ne faisait qu'augmenter. Il y a une soirée où je n'arrivais plus à entrer en contact avec lui. Tout le stimulait, la chaleur, les couleurs. J'avais l'impression que mon fils avait pris de la drogue. La famille a arrêté le médicament dès le lendemain. Une semaine plus tard, le garçon était de retour à son état normal. Il est venu nous serrer dans ses bras et rester collé sur nous. Il ne faisait jamais ça. On s'est rendu compte que le médicament avait vraiment eu un gros effet sur lui. On m'avait dit que c'était comme prendre une pilule de sucre, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, se remémore Anne-Lisa Ognio. La jeune femme s'était faite prescrire le médicament Singulair pour contrôler son asthme en 2007. Alors étudiante à McGill, à Montréal, pour sa thèse de doctorat, Madame Ognio s'est mise à souffrir d'une dépression sévère quelques semaines après avoir commencé à prendre le médicament. Je n'ai pas d'antécédent de dépression et ça m'a frappée très rapidement. La jeune femme avait entendu parler de suicides signalés aux États-Unis en lien avec Singulair. J'ai demandé à ma psychiatre si ma dépression pouvait être due au Singulair, mais elle ne savait rien à ce sujet à l'époque, se rappelle celle qui est aujourd'hui enseignante au collège Dawson. Voyant de plus en plus de recherches sur les effets secondaires du médicament, elle a décidé de cesser de prendre la médication en 2010. Ses effets négatifs ont grandement diminué, mais n'ont jamais complètement cessé. De 10 à 15% des enfants touchés. La docteure Francine Ducharme, spécialiste de l'asthme chez les enfants, fait partie des chercheurs qui ont étudié les effets secondaires du médicament. Elle se rappelle l'histoire d'une patiente qu'elle a mise sur Singulair. Son papa m'a appelée 2 semaines après et m'a dit « Ma petite princesse est devenue une bitch ». La fillette était devenue agressive et irritable. Quand les parents ont arrêté la prise du médicament, l'état de leur fille est revenu à la normale. Mais quand ils ont réessayé le médicament, ses symptômes sont revenus. Intriguée, la docteure Ducharme a décidé d'explorer le sujet. Elle a demandé le consentement des patients de la clinique d'asthme du CHU Sainte-Justine pour accéder à leurs dossiers médicaux à des fins de recherche. Elle a ensuite analysé et comparé les résultats des patients traités avec du Singulair montelukast à ceux des patients traités avec des corticostéroïdes, un traitement populaire contre l'asthme. Les résultats de son étude, publiée en 2017, sont sans équivoque. On s'est rendu compte qu'il y avait 10 à 15% des enfants qui avaient un effet secondaire neuropsychiatrique avec le montelukast, dit la docteure Ducharme. Cela inclut un effet sur le sommeil, comme un délai d'endormissement ou des terreurs nocturnes, et des effets sur l'humeur, où les enfants sont tristes ou irritables. Elle précise que les premiers effets secondaires surviennent généralement dans les 2 premières semaines, tandis que les suicides tendent à se produire de 2 à 4 ans après le début de la prise du médicament. Environ 85% n'ont aucun effet secondaire, précise toutefois la docteure Ducharme. Les enfants sont généralement plus à risque que les adultes d'avoir des effets neuropsychiatriques, indique le docteur Larry Lanz, directeur de la division de médecine respiratoire à l'hôpital de Montréal pour enfants. Des études réalisées chez les rats suggèrent d'ailleurs que le médicament pourrait agir directement sur les cellules du cerveau. Prévenir les familles. Santé Canada rappelle aux professionnels de la santé de rester à l'affût de tout changement de comportement ou de tout nouveau symptôme pendant la prise du Singulair et de cesser de prendre le médicament si un changement de comportement est observé. On prévient toutes les familles que ça peut causer des effets comme un changement de comportement. Si elles notent un changement, elles doivent arrêter le médicament et normalement les effets secondaires disparaissent en 2 ou 3 jours, dit le docteur Lanz. L'Ordre des pharmaciens du Québec rappelle pour sa part que les pharmaciens ont la responsabilité de se tenir informés sur les nouvelles études publiées sur les médicaments qu'ils distribuent et d'accompagner adéquatement leurs patients en tenant compte des avancées scientifiques. La docteure Francine Ducharme, pédiatre et épidémiologiste clinique au CHU Sainte-Justine, lance un message aux professionnels de la santé. Si vous le prescrivez, il faut que vous ayez le temps d'expliquer. Le plus important, c'est que les gens soient au courant que ça peut arriver. C'était « Traitement de l'asthme et des allergies, un médicament lié à des suicides, mais largement prescrit, un dossier d'Alice Girard-Bossé, paru le 31 mars 2024 dans la presse.
Les nouveaux marchands de sommeil. En sous-titre, les architectes de l'intelligence artificielle, nommés personnalité de l'année du Times, veulent juste notre attention. Texte publié dans Le Devoir du 19 décembre 2025. Le 11 décembre dernier, le magazine Time présentait sa fameuse personnalité de l'année. Pour 2025, le choix ne s'est pas arrêté sur une seule personne, mais sur un groupe d'individus qui, comme l'affirme le magazine, citation, « façonne nos vies », fin de citation, les architectes de l'IA. Voilà les personnalités de l'année 2025, l'ensemble des individus qui œuvrent à l'essor d'une technologie qui s'impose dans différents domaines de notre vie. Divertissement, travail, transport et autres. Bien de l'encre a coulé depuis les deux dernières années au sujet des côtés positifs et négatifs du développement de l'intelligence artificielle générative. Ou vous êtes dans un camp, les pieds fermes, ou votre jugement n'est pas encore décidé. Ou vous affirmez que ce n'est qu'un outil comme un autre, et vous l'utilisez en croyant avec assurance que vous le tenez d'une main ferme et que ce n'est certainement pas lui qui vous tient, ou vous êtes de ceux qui se méfient de l'utilisation d'un outil qui facilite certaines tâches, dont la plus difficile, qui est celle de penser par soi-même, et regretter de vous trouver encerclé par de plus en plus de logiciels qui vous poussent à vous commettre. Ou alors, vous êtes de ceux qui attendent encore des preuves avant de décider dans quel camp vous voulez être. Et si vous êtes indifférent, pensez à cette image que je sors d'un vieux discours prononcé par le philosophe Alain Émile Auguste Chartier, décédé en 1951. L'image des marchands de sommeil. Dans un discours prononcé en 1904, lors de la distribution des prix au lycée Condorcet, Alain confie aux jeunes têtes diplômées qu'après les nombreuses années passées sur les bancs d'école, ils n'auront de cesse de prendre garde à ne pas dormir, en étant désormais des citoyens adultes. Maintenant qu'ils ont appris, ils doivent agir. Mais cessons-nous d'apprendre? Et qu'entend-il exactement par cette mise en garde? Voici un extrait. Citation. Qu'est-ce donc que dormir? C'est une manière de penser. Dormir, c'est penser peu, c'est penser le moins possible. Penser, c'est peser. Dormir, ce n'est plus peser les témoignages, c'est prendre comme vrai, sans examen, tout murmure de sens et tout le murmure du monde. Dormir, c'est accepter. Fin de citation. On aime citer Alain par sa fameuse phrase « Penser, c'est dire non ». Cette négation est en fait de l'ordre du doute, un doute sain, un doute qui ne mène pas à une pensée sceptique ou à une dérive complotiste, mais un doute posé, une distance, autrement dit, une réflexion critique. La mise en garde du sommeil consiste en une vigilance pour que nous restions éveillés. Enfin, à se réveiller, car nous pouvons facilement ne plus interroger, ne plus douter, et de nous laisser glisser dans le sommeil sans nous en rendre compte. Citation, se réveiller, c'est se refuser à croire sans comprendre. C'est examiner, c'est chercher autre chose que ce qui se montre. Fin de citation. Les marchands de sommeil dont parle Alain sont tous ces gens qui nous arrivent avec des systèmes tout préparés, avec des maximes de grande tenue que l'on n'interroge pas, avec des idées toutes faites. Ce sont ceux qui affirment savoir ce qu'est la vérité, qui se disent parfaitement suffisants dans la distinction de ce qui est vrai ou faux, réel ou non. Ils portent plusieurs masques et ils ne sont pas nécessairement faciles à reconnaître. À une certaine époque, beaucoup portaient une soutane et l'anticlérical Alain pensait possiblement davantage aux hommes d'Église, non sans la pointe qui lui était propre. Le discours a été publié dans le recueil « Vigile de l'esprit » en 1942. Je vous encourage à le lire. Il s'agit d'un des plus beaux textes d'Alain, à mon avis. Aujourd'hui, qui sont nos marchands de sommeil? J'aime à m'interroger sur ces gens qui auraient intérêt à ce que je dorme, à ce que je ne pense pas trop, ou du moins à ce que je ne pense pas différemment. Je souhaite que cette interrogation soit collective. Demandez-vous, quel est leur capital qu'ils souhaitent tant nous vendre? Quel confort nous présente-t-il pour que l'on glisse tout doucement dans un sommeil de la pensée? Avez-vous des idées? On nous mâche de l'information toute préparée. On vole des données pour les revendre à moindre prix sur le marché des idées. On nous promet des merveilles et de la liberté, plus de temps, oh, ce temps si précieux, et de la facilité, car l'effort ne se vend pas bien. Je les appelle les nouveaux marchands de sommeil, mais ils sont comme les anciens. À l'exercice difficile de la recherche, à celui de l'enquête, de l'analyse, de la synthèse, et puis, surtout, au grand travail de la création, ils veulent une attention. Notre attention. Ils veulent que vous disiez oui. Juste oui. Réveillez-vous, dites non. Pensez. Qui sont les nouveaux marchands de sommeil? Le Time les a choisis comme personnalité de l'année. Fin de ce texte de Philippe Girard, qui est diplômé en philosophie, dont son texte est titré « Les nouveaux marchands de sommeil », publié dans Le Devoir du 19 décembre 2025.